L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Nous sommes à New York, le centre du monde. Dans la plus grande salle d'enregistrement du label ABC Paramount, non loin de la 5e avenue. Aujourd'hui est un grand jour, particulier, fondateur. Ray Charles, déjà dieu de la soul music, roi du piano, souverain des âmes sensibles, porte la touche finale à une reprise qui va le faire entrer dans une nouvelle dimension. Georgia on my mind, titre phare de la musique afro-américaine des années 1930, entre dans son répertoire, avec un objectif particulier, celui de faire passer un message. Ce titre, balade sentimentale où Georgia est une magnifique jeune femme, prend derrière son sourire légendaire une autre signification. Celle où Georgia est en réalité l'état de Géorgie, cet état dans lequel il est né et celui qui, aujourd'hui, lui interdit de s'y produire en concert. Alors, comme à son habitude, Ray s'assoit derrière son piano, tâtonne du bout des doigts sur les touches, s'y place comme s'il voyait avec ses mains et joue les premières notes. Nous sommes le 29 mars 1959. Le soleil brille sur la Big Apple. Il est un peu plus de 14 heures et c'est l'heure H de mon histoire. Quelques minutes plus tôt, l'artiste prend place sur le tabouret devant son instrument, guidé par son batteur et ami, Milt Turner. L'homme, toujours aux petits soins pour lui, se fend d'un « Ça va, Ray ? Ready ?» D'un immense sourire, toujours parfait, l'artiste lui répond, pas un seul mot. Une tape sur l'épaule et Turner s'assoit derrière sa batterie. Tout le monde est prêt. Privé de la vue depuis presque toujours, Ray Charles a appris à développer ses autres sens. Le regard n'a plus rien d'indispensable. Il vit, transpire, respire grâce à autre chose. Sa sensibilité accrue, sa personnalité, il est constamment dans l'hyper. Hyper émotif, hyper sensible, peu de repos, une multitude d'idées qui ne cessent jamais de fuser, les unes après les autres, et de la drogue pour tenir, faire face à ces démons qui, eux aussi, finalement, font l'artiste, font l'auteur et font l'homme qu'il est devenu. Ray Charles porte ses célébrissimes lunettes noires et une chemise toute simple, de la même couleur. Il vient de mettre son casque, le reliant à la cabine d'enregistrement sur ses oreilles. Sur une oreille, pour être précis. L'autre lui permet de garder le contact avec la salle. Ses sens lui parlent et très vite, il mesure l'ampleur de l'endroit dans lequel il se trouve. Il n'est pas seul aujourd'hui, non. C'est le dernier jour, celui où on met le titre et ses arrangements finaux dans la boîte. Il lève la tête, enclenche son odorat, sent les différents parfums, comprend que sur sa droite et derrière lui, un orchestre d'instruments à cordes est là. C'est pas tout, non. Il se concentre, perçoit des échauffements de voix. Ah, un chœur, visiblement gospel. Il se souvient maintenant. C'est lui. C'est lui qui l'a demandé pour accompagner sa voix à lui que tout le monde connaît. Passer un de ses morceaux n'importe où, n'importe quand, il y aura toujours quelqu'un pour reprendre l'air et fredonner la mélodie, ou pour s'exclamer « Ah, c'est du Ray Charles !» Le haut-parleur, situé tout près de lui, se met soudainement à grésiller, et la voix de son ingénieur en chef lui demande si tout est OK. L'artiste lève le pouce en l'air et quelques secondes plus tard, l'ensemble de violons s'élance dans une harmonie et une symbiose si parfaite que le cœur de notre héros se soulève. Il se concentre, replace ses doigts, c'est son moment. D'une petite pression sur le « la », Ray lance son interprétation. Magistrale, comme toujours. Pleine d'émotions qui débordent. C'est toujours autant sa force que sa faiblesse. Il est une éponge, un réceptacle. Sa voix est pleine de ce qu'il vit et de ce qu'on lui donne. Que ce soit positif ou négatif. Aujourd'hui, particulièrement, son timbre est solide, affirmé. Il faut dire que cette histoire l'a marqué profondément. Il ne déclare pas son amour à une femme, non. Il le déclare à son état de naissance, celui dans lequel il a vécu ses toutes premières années, celui qu'il a aimé autant qu'il le déteste aujourd'hui. Du moins, déteste-t-il la politique qu'il prône. Faire passer ses messages par la musique, par le piano, par les sentiments, c'est sa manière de ne pas faire exploser la cocotte minute, sa manière à lui. Et alors qu'il entame son premier refrain, que résonne dans le studio le mot « Georgia », c'est une larme qui coule sur sa joue. Et dans son esprit, les souvenirs fusent.
Georgia, Georgia, the whole day through, just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
Georgia on my mind.
I said, Georgia, Georgia, a song of you comes as sweet and clear as moonlight through the pines.
Tout avait commencé l'été précédent, lors d'une tournée dans le sud du pays, dans une atmosphère à la fois étouffante et pesante. Comme Ray Charles, bien entendu, ne conduit pas, il a un chauffeur avec qui il aime discuter. Et parfois aussi se taire. Retourner se cacher dans la grotte intérieure qui lui sert de refuge, celle où il cache ses chansons et celle des autres qui l'inspirent. C'est notamment le cas de Georgia on My Mind, un titre iconique ici dans le Sud. Il a été écrit en 1930 par Carr Michael, qui voulait rendre hommage à sa petite sœur. Ray le fredonne souvent, peut-être trop d'ailleurs, puisqu'un jour, alors qu'il termine une de ses cigarettes et qu'il ouvre la fenêtre de l'habitacle pour la jeter sur la terre aride du Texas, son chauffeur lui avait soufflé l'idée. « Pourquoi tu n'enregistres pas cette chanson ?» Cette phrase avait résonné en lui comme une évidence, et il l'avait fait. Notamment parce que le destin lui en avait donné l'opportunité. À la fin des années 50, la ségrégation avec son lot de lois infamantes et injustes voit son vernis qui commence à craquer, à se fissurer. Pourtant, dans les salles de concert, les blancs et les noirs sont séparés dans différentes zones, parqués. D'autres doivent accepter ça à cette période. Le gamin Presley en tête d'affiche. Mais Ray, lui, en a sa claque de ce genre d'humiliation. Et refuse catégoriquement, lorsque sa tournée passe par la Géorgie, de se produire dans ce type de salle. Pour seule réponse, l'État lui envoie une fin de non-recevoir et une interdiction définitive de s'y produire. C'est la douche froide. Le chanteur le subit comme une véritable humiliation, un vrai choc émotionnel, comme la vie lui en a réservé de nombreux. Ray Charles est une pure victime de ces lois dégueulasses. Et sa double casquette de personne noire et handicapée lui a donné maintes fois l'occasion d'expérimenter ce que les politiques ségrégationnistes du Sud sont capables d'imposer à sa communauté. Il n'y a pas si longtemps, ils étaient encore des esclaves dans d'immenses plantations. Ces terres des États du Sud s'est nourrie de leur sang. Ce qui y pousse est marqué de manière indélébile par ce que les Afro-Américains y ont vécu. L'humiliation, l'horreur, les abus et les privations de liberté. Le musicien pense à sa mère, qui travaillait dans les champs en échange d'un salaire si misérable que la frontière entre l'esclavage et sa situation était malheureusement extrêmement fine. Souvent, Ray tente de se souvenir du visage de ses parents, celui de son père, mécanicien, et si brouillé dans sa tête qu'il n'est plus qu'une forme floue. Il se souvient encore de ses grandes mains calleuses et souvent pleines de cambouis, et de son sourire aussi, dont on dit qu'il a le même. Le reste n'est plus que de vagues souvenirs. Il se souvient des robes en coton de sa mère, de ses mots de dos et de cette main droite qu'elle posait bien souvent sur ses lombaires, et de Georges, son petit frère, celui dont tout le monde a arrêté de prononcer le nom. Pas lui. Lui, il a refusé de le laisser partir dans les limbes de l'oubli. Alors souvent, dans sa tête, il prononce son nom, Georges, pour pas l'oublier, pour se souvenir de cette bouille angélique qui savait réchauffer les cœurs de toute la famille. Georges qui, lorsque ce terrible accident était arrivé, avait emporté dans ses bagages vers le paradis toute l'unité de son clan, ainsi que la santé psychologique de son grand frère. Dommage collatéral Ray avait appris à vivre avec et à devenir l'homme qu'il était désormais. The genius, un musicien remarquable, un homme fissuré, en paradoxe. L'aveugle qui savait voir, l'handicapé qui paraissait valide, l'âme brisée qui, au cœur d'un monde qui avait cessé de tourner rond depuis bien longtemps, paraissait la plus saine. Alors, hit the road, Jack, et plongez avec moi dans l'univers du musicien qui inventa la soul et qui inspira des générations de jeunes qui se nourrirent de l'artiste, oui, mais aussi de la détermination de l'homme.
I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
Notre heure H, comme toutes les meilleures histoires, trouve sa genèse au cœur d'une profonde tragédie. Nous sommes en 1935. Ray a 5 ans. Il prend déjà de temps en temps des cours de piano. Nous nous trouvons à Greenville, dans l'état de Floride, non loin de Miami qui ne ressemble encore en rien à la métropole qu'elle peut être aujourd'hui, tout près de l'océan donc aussi. La condition sociale des Robinson, car oui, le nom complet de Ray est Charles Robinson, est particulièrement modeste. Mécanicien de chemin de fer, son père court autant de voies ferrées que derrière les femmes qu'il collectionne. Autant vous dire donc qu'il n'est pas souvent à la maison. La mère de Ray et de George, elle, est métayère et se casse donc le dos dans les champs. The good old days, comme disent ironiquement entre eux ses descendants d'esclaves, que la libération par la loi n'a pas sorti de la misère. Bien au contraire. La petite maison, donc, est loin d'être un palace et les enfants sont les seuls à dormir ensemble, dans un semblant de lit. Leur mère dort dans la pièce de vie, en compagnie d'une autre femme que les gosses considèrent comme leur deuxième maman. Elle fut l'une des très très nombreuses concubines du paternel. Lui n'a pas de couche dans ce petit baraquement, puisqu'il n'y dort jamais, ou presque. Il se contente, de temps en temps, de passer voir les enfants. Au passage, s'engueule avec leur mère et puis repart dans un claquement de porte. Ray et George connaissent bien la manière dont les choses se passent, et malgré leur jeune âge, 5 ans pour Ray et 3 pour son petit frère, ils ont appris à ne plus s'inquiéter. Et puis, à se serrer les coudes. Ils sont si jeunes pourtant. Combien de fratries à cet âge se déchirent, se battent, souvent se chamaillent, presque toujours. Mais eux, ils n'ont pas ce luxe-là. La pauvreté les oblige à s'affirmer très tôt, d'autant que leur père est absent. Ray devient à 5 ans le petit homme du foyer. Il prend la mesure de cette situation. Alors, de temps en temps, pour s'évader, il rend visite au patron de l'épicerie qui joue du piano au salon le soir. Il s'est pris d'affection pour ce gamin qui n'a jusqu'ici pas eu de chance et lui a appris quelques techniques. Ray, comme une évidence, dans un coup de foudre, est tombé amoureux du piano. Une véritable prolongation de son âme et de son courage. George, lui aussi, se réfugie dans l'apprentissage pour quitter l'espace de quelques heures, ce quotidien marqué par une pauvreté crasse, comme trop d'Afro-Américains peuvent encore la connaître en 1935. Mais lui, ses aptitudes le conduisent vers les mathématiques. À 3 ans, il est déjà un crack incroyable. Son grand frère le soutient et l'aide comme il le peut, mais il préfère de loin se sauver de la maison pour aller tapoter sur les touches noires et blanches du seul piano du patelin. Quand ils le peuvent, comme les soirs d'été ou encore les journées où ils sont seuls à la maison, les enfants aiment jouer et s'amusent ensemble. Souvent, c'est la course entre les deux. Ils jouent à celui qui attrapera l'autre. Une banale journée de printemps, c'est ce jeu que commencent ensemble les deux frères alors que leur mère se casse le dos dans les champs et que leur père se trouve sur les voies ferrées, à frapper sur des rails en construction. Comme d'habitude. Les deux gamins courent, crient, se chamaillent un peu, rient beaucoup. Le jeu débute dans la masure et vite, trop petite, continue à l'extérieur. Comment peut-on imaginer qu'un drame puisse se dérouler alors qu'il y a une seconde à peine? Il riait à gorge déployée. Ça semble totalement impossible. Et pourtant, le drame, innommable, à peine descriptible, se produit là, juste devant Ray. Son frère, imprudemment, grimpe sur un morceau de bois, glisse et tombe la tête la première dans un bac à lessive d'eau chaude, utilisé par leur mère. Bien trop haut et profond pour qu'un môme de 5 ans puisse venir en aide à Georges, 3 ans, qui se débat sous ses yeux. Ray est le seul témoin de cette scène d'horreur qui le marque pour toujours. Oh, il tente bien d'agripper la main du petit, manque de réussir, mais finalement, hélas, Georges finit par se noyer. Ray court alors avertir les voisins, mais il est déjà trop tard. Son petit frère, son pendant, la moitié de son cœur, vient de mourir. Sa vie, elle, vient de prendre un tout nouveau cours. Rapidement après le drame, Ray se plaint de douleur aux yeux. Derrière les yeux, comme il le dit à sa mère. Comme si c'était le nerf optique qui le faisait souffrir. Alors ensemble, ils vont consulter le médecin de la petite communauté de Greenville, qui lui diagnostique un glaucome. Oui, Ray va perdre la vue, c'est inexorable. Certainement lentement, par phase, mais l'issue finale ne fait plus aucun doute. Ses yeux vont s'éteindre, comme des lampes à huile en manque de combustible. Là où certains ont vu un glaucome, d'autres ont envisagé un choc post-traumatique. Ce trouble consiste en l'impossibilité de récupérer après avoir vécu ou assisté à un événement terrifiant. Il agit parfois sur le corps et ses capacités. Une hémiplégie, une jambe raide ou des yeux qui meurent. Dans les cas les plus violents, il provoque des dysfonctionnements de l'intégrité physique. L'esprit se transforme. Ceux qui en souffrent sortent de la réalité vécue par les autres et souvent sombre, totalement. Les plus chanceux s'adaptent, développent des défenses pour s'en sortir et pour les plus sensibles d'entre eux, deviennent parfois des génies de l'expression artistique. Ray est l'un d'entre eux. Il en est même certainement le meilleur exemple. À l'âge de 7 ans, Ray est devenu totalement aveugle. Sa mère, malheureusement, ne peut rien faire pour lui. Elle n'a d'autre choix que de l'envoyer vivre dans un institut pour enfants noirs aveugles ou sourds. Pour le petit garçon, c'est un déchirement. Il a l'impression de perdre sa mère alors qu'il a déjà, impuissant, vu son frère mourir. Le traumatisme est total. Il restera dans cette institution de Sainte-Augustine de 1937 à 1945. Il se jette à corps perdu dans la musique pour survivre. Il apprend le saxophone, la clarinette, le piano, le braille aussi. Il devient très vite indépendant et suit ses cours avec une impressionnante régularité. Il voit sa mère de temps en temps et en est particulièrement heureux. Mais alors qu'il n'a que 15 ans, nouveau drame. Et celui-ci manque d'avoir sa peau. Sa mère, l'héroïne de sa vie, meurt de manière prématurée. Ce nouveau choc émotionnel vient réveiller en lui ses pires démons. Ray décide de quitter l'institution qui le couvait et il déménage à l'autre bout du pays, direction Chicago, Orlando ou Tampa. Chaque fois, il y intègre des orchestres en tant que pianiste. Son salaire de misère lui permet à peine de survivre. À 17 ans, ce survivant parmi les survivants décide de s'installer à Seattle. Nous sommes alors à la fin de l'année 1947. Il parvient à financer lui-même une première formation musicale avec laquelle il se produit en tant que chanteur dans divers clubs de la ville. Il y rencontre Quincy Jones, trompettiste de folie, et adopte pour de bon sa célèbre monture épaisse et noire. Au détour de soirées en ville, il rencontre également la marijuana, puis sa grande copine, l'héroïne. Ils vont devenir, pendant longtemps, de très très bons amis, pour le pire, bien souvent. En tous les cas, le succès, doucement, commence à poindre. En 1949, Ray Charles signe chez Atlantic Records, la sommité des maisons de disques pour ceux qui écoutent de la musique afro-américaine, ou qui en jouent. Ses producteurs ont la bonne idée, devant l'incroyable capacité de production du musicien qui peut écrire et arranger une chanson en quelques heures, de laisser libre cours à sa création. Et ça marche. Leur collaboration s'ouvre sur une décennie de succès pour Ray Charles qui, avec des singles comme « Alléluia, I love her so », entre par la grande porte dans le monde de la célébrité musicale. Pour les Noirs. C'est ça qui, d'ailleurs, l'ennuie encore un peu. Il sait qu'il doit élargir son public, faire danser les Blancs. En parallèle, il se marie une première fois avec Della en 1951. Divorce l'année suivante. Il se remarie en 1955. Ils vont vivre ainsi 20 ans d'amour passionnel, marqués par les incartades et la dépendance à la drogue dorée. En effet, l'artiste est obsédé par les femmes, ne peut résister aux opportunités que lui offre sa célébrité qui s'affirme. Drugs, sex and soul, à la sauce Charles. Car oui, durant ces décennies de production acharnée, l'artiste s'invente un genre musical qui lui est propre et qui va inspirer des générations d'artistes, de Seal à Amy Winehouse, pour ne citer que. Du grand art, vous en conviendrez. Mais dans l'optique de fédérer un plus large public, Ray Charles décide de changer de label. Il passe chez ABC Paramount. Leur première session d'enregistrement, vous la connaissez déjà. C'est Georgia on my mind. De quoi laisser présager une période folle et délirante de succès. Mais si l'artiste est en pleine explosion, l'homme, lui, se noie dans ses démons. Il tente de boucher les trous dans sa tête avec l'héroïne. D'abord un peu de temps en temps, puis beaucoup, et puis tous les jours. C'est l'escalade. Tant et si bien que les équipes médicales et ses proches commencent à s'inquiéter. Il a parfois des accès de violence, ne se contrôle plus par moments. Il coule à pic, sans s'en rendre compte. Il faudra attendre longtemps avant qu'il ne puisse guérir. Il faudra un déclic. Il le trouvera un peu comme une cerise sur le gâteau le 24 avril 1979 en Géorgie. Tout un symbole.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui, l'heure H se consacre à la vie de Ray Charles, artiste de génie ou handicap qui aurait pu en arrêter plus d'un. Né dans la pauvreté, la décennie 1950 marque pour lui le passage de l'anonymat au succès. De nombreux disques sortent chaque année. Il est capable de produire énormément, avec talent, avec sérieux. Son esprit fuse, sa sensibilité toute particulière lui permet de créer et de survivre au traumatisme de son enfance. L'héroïne aussi lui permet de tenir. Mais cette fausse bonne amie lui cause de nombreux soucis. Un détail de l'histoire, un jour, lui tend pourtant la main et lui permet d'arrêter cette surconsommation qui aurait pu conduire à sa mort. Nous sommes le mardi 24 avril 1979, au Georgia State Capitol, Atlanta. Le bâtiment officiel par excellence de l'État du Sud des États-Unis. État de Géorgie donc, qui, il y a déjà 49 ans, a vu naître Ray Charles. Le musicien est revenu pour la première fois aujourd'hui sur le sol de sa mère patrie. Il est là pour entendre un discours qui va changer sa vie. À la tribune, le gouverneur de l'État fait face aux députés. À ses côtés se tient Ray, qui, pour une fois, est vêtu d'un simple costume noir. Chemise blanche et cravate, voilà à quoi tient parfois l'élégance d'un homme. Derrière ses lunettes épaisses et noires, l'homme tend l'oreille. On lui a promis de grandes choses lors de ce déplacement. Sa femme aussi est là, tout près, les mains crispées sur son sac à main. Elle ne sait pas ce qui va se passer. Comme tous les autres, elle attend avec impatience le discours qui va suivre. Le gouverneur s'éclaircit la gorge et finit par se lancer. « Aujourd'hui, nous sommes rassemblés pour évoquer ce qui a été fait de mal à l'un de nos fils il y a un peu plus de 20 ans. » En 1961, Ray Charles a été banni de notre État de Géorgie pour avoir refusé de jouer devant une audience ségrégationniste. Bien heureusement, nous sommes loin maintenant de ces jours sombres. Certains d'entre nous ont d'ailleurs lutté pendant tout ce processus. Mais Ray Charles, lui, a chanté la culture américaine en touchant le cœur des gens. Alors en ce jour, 24 mars 1979, nous, les représentants élus de l'État de Géorgie, décidons maintenant de proclamer « Georgia on my mind » comme hymne officiel de notre État. Nous présentons également à M. Ray Charles des excuses publiques et lui souhaitons un bon et chaleureux retour à la maison. Other eyes smile tenderly, still in the peaceful dreams I see. Lorsqu'il entend ces quelques mots résonner dans l'hémicycle, il n'en croit pas ses oreilles. Tout ça paraît si irréel qu'il a l'impression de ne plus avoir les pieds qui touchent le sol. Son interprétation de cette chanson iconique est proclamée hymne fédéral. Et plus réconfortant encore, il reçoit des excuses publiques. Il entend les flashs des journalistes crépiter, les hurrahs de la foule et sans se poser sur ses lèvres, un baiser de sa femme. Alors, comme une réaction incontrôlable, une larme coule sur sa joue et, avec un grand sourire dont il a le secret, il s'en lasse lui-même. La salle, elle, est debout, l'applaudit avec une telle vigueur qu'on ne peut douter de la sincérité de tous ses jours. Ray Charles est promu au rang de héros, enfin. Il est adulé dans sa propre maison, dans cet état où jadis il a vu le jour. Sa femme se penche alors vers lui et lui glisse à l'oreille ces quelques mots. « Quel dommage que ta maman ne soit pas là. » Et Ray de lui répondre « Elle est là. Elle ne m'a jamais quitté. » Cet instant marque un moment décisif dans l'histoire de sa vie chaotique, marquée par les addictions. Ce jour-là, alors que les larmes coulent sur ses joues et que ses yeux morts, comme par magie, sont capables de voir sa mère applaudir elle aussi là-haut sur le balcon, il se promet de ne plus jamais toucher à l'art, de ne plus jamais risquer que son talent soit altéré par des poudres ou des liquides. Ses dépendances, au final, auront eu raison de sa créativité durant quelques années. Un nouveau Ray Charles est né ce 24 avril 1979, pour le plus grand bonheur de tous ses fans. C'est alors l'époque du grand Ray Charles, celui qui virevolte sur scène et se trémousse inlassablement dans de magnifiques costumes chamarrés, brillants, presque too much. Rien n'est trop beau pour cet homme qui, dès qu'il le peut et sans discontinuer, publie des singles et des albums. Son impressionnante production lui permet de mettre de l'argent de côté, beaucoup d'argent. Pas seulement pour mettre à l'abri sa smala impressionnante, mais aussi et surtout pour des œuvres de charité. C'est aussi la force de ce personnage. Jamais, jamais il n'oubliera d'où il vient, quitte parfois aussi à déserter les grandes scènes bondées pour retourner jouer dans de petits piano-bars. Il cherche la simplicité et le bonheur de jouer de la musique avant tout. Jamais il ne fera une croix sur l'amour que lui portent les femmes. Cette addiction-là, il refuse de la laisser tomber. Voilà les principes de la vie du grand homme, tout en paradoxe. Il revêt les plus belles et les plus extravagantes tenues lors de ses apparitions publiques dans des festivals ou grandes scènes, mais garde des habitudes très simples quand, certains soirs de semaine, il se produit en compagnie d'habitués de petits établissements. Cet artiste n'a rien de commun, et la quantité de trophées qu'il amasse entre les années 70 et la fin des années 90 est délirante. Tenez-vous bien. 12 Grammy Awards, une entrée triomphale dans la peau d'un pionnier au Rock'n'Roll Hall of Fame en 1986. La même année que les excuses publiques obtenues à Atlanta, il devient chevalier des arts et des lettres en France, distinction rarement obtenue par des étrangers. Sa situation financière nécessitant un petit coup de pouce, il revient sur le devant de la scène au début de la décennie 1990, après un retrait volontaire à la fin des années 80. Pepsi fait appel à lui pour un spot qui va entrer dans les annales de la pub aux États-Unis. Ce nouveau coup de projecteur lui donne l'opportunité de recommencer à produire des albums dont le dernier en 2004 se compose d'une multitude de duos de génie, de Quincy Jones à B.B. King en passant par Elton John. La superstar entre dans le panthéon de ceux qu'on pense immortels par la grande porte. Le monde entier est unanime et apprécie durant ces dernières années cet homme qui joue maintenant au grand sage et qui se plaît à distiller des conseils. Un biopic sur sa vie extraordinaire est tourné en 2003 et sort en 2004. Ironie de l'histoire, l'année de sa mort. De savoureuses scènes off du tournage existent sur YouTube, le mythique musicien et l'artiste qui interprète son rôle. Je vous les conseille. Et vous pensez évidemment que mon histoire s'arrête là. Eh bien, pas du tout. Attendez la suite.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui, l'heure H se penche sur la destinée d'un des musiciens les plus connus au monde, Ray Charles. The Genius, comme on l'appelle, est un homme au destin hors du commun. Sans doute, sa sensibilité exacerbée, provoquée par les nombreux malheurs durant son enfance, aura contribué à en faire une star. la souffrance est créatrice. Et Ray en est la preuve ultime. Auteur d'une carrière extraordinaire, le temps, comme c'est souvent le cas, finit néanmoins par le rattraper. Pour lui, l'aube des années 2000 sera synonyme de révérence. Nous sommes le 6 mars 2004. Il est un peu plus de 20 heures. Dans une salle comble du centre-ville de Los Angeles, le public d'un gala de charité attend avec impatience le final d'un show qui dure déjà depuis une heure. Le clou, la cerise sur un gigantesque gâteau, c'est Ray Charles. Depuis déjà quelques années, la star vieillissante est poursuivie par des soucis de santé très handicapants. Il est rattrapé par une vie d'excès. Le tableau est trop chargé pour pouvoir tout effacer sans conséquence. Mais ce soir, il a annoncé sa présence. Dans la salle, assis comme à l'école, les invités drapés de leur plus belle tenue de soirée attendent dans un silence religieux, teinté d'un mélange d'appréhension et d'excitation. On n'est jamais à l'abri d'une annulation de dernière minute. Et soudain, le rideau se lève et le piano est là, triomphant, au milieu d'une scène sur laquelle un orchestre se tient à l'arrière. Pas de doute, il va venir. Le musicien n'est sans doute pas loin puisque soudain Quincy Jones passe une tête. Vous vous souvenez? Le trompettiste de génie, le vieil ami des premières années. Il est là aussi ce soir, ce qui témoigne de l'importance de l'apparition. Ray Charles n'a rien laissé filtrer. Mais certains organisateurs murmurent qu'il va se servir de cette soirée de gala pour faire une annonce. Tout le monde ignore de quel genre de discours il s'agit. Personne, malgré la fatigue chronique de la star, n'imagine une retraite. Il est encore tellement productif. Les 70 ans ont coulé sur lui comme la pluie sur le dos d'un canard. Le premier rang remarque un deuxième passage de tête de Quincy. Et enfin, les trompettes résonnent, comme pour annoncer un roi qui rentre dans son palais. Appuyé au bras de son ami de toujours et, oh surprise, aussi à celui du grand Stevie Wonder, c'est un Ray Charles fatigué qui pénètre sur scène. Mais la magie opère instantanément. Le public a l'impression de retrouver le Ray des grandes années, celui qui, conduit par un homme de main jusqu'au piano, se trémoussait au son des cuivres dans des costumes chamarrés scintillants. Il refait le geste de s'enlacer lui-même, comme pour se rassurer, comme pour envoyer de l'amour à son public. Son sourire si blanc, qui pourrait percer les nuages, vient compléter l'ensemble qui relève du merveilleux. Comme au bon vieux temps, un speaker de la même trempe que ceux des stades s'exclame à l'attention de tous. « Ladies and gentlemen, voici l'arrivée du prince de la soul music, le genius, Mr. Ray Charles !» La salle explose. Les gens se lèvent, sifflent, hurlent. L'orchestre est déjà chauffé à blanc. L'ambiance dans la salle est totalement folle. Et Ray, lui, qui vient de s'asseoir sur son tabouret, pose de ses deux mains les premiers accords. Oui, ouais, la magie opère encore. Il ondule d'une épaule à l'autre. Il faut le voir pour le croire. Sa tête se balance en rythme d'avant en arrière. Ses mains ridées et fripées reprennent vie. C'est la cohue. Les gens dansent. La soirée n'a plus rien d'un gala de charité. C'est un concert de soul. Même Stevie Wonder, en bord de scène, se déhanche. Les invités de la soirée de gala, quant à eux, en beau smoking et belle robe, se sont tous mués en fans et groupies. Ils attendent la prochaine note, pendue aux lèvres du grand Ray. Tout est magnifique, tout. Le premier morceau est joué avec la grâce des grandes années. Et puis vient l'annonce, qui tombe comme un coup de tonnerre dans un ciel bleu. « C'est la dernière fois que vous me voyez. Je vous aime tous. » Viennent les rejoindre sur scène, ces 12 enfants. Oui, oui, on en compte bien 12. Il les réunit en cercle, leur parle en secret quelques minutes et il s'en va, soutenu par le bras de Quincy Jones. Et en effet, le monde, plus jamais, ne reverra Ray Charles sur une scène. Pour le plus grand malheur de son public. À peine 8 semaines plus tard, le 10 juin 2004, dans sa maison de Beverly Hills, au cœur de la belle Californie, Ray Charles s'est éteint, donnant ainsi à à la Voie lactée une nouvelle étoile. Foudroyé par une simple maladie du foie. Rien de bien extraordinaire. Rien de bien facile non plus. 73 ans et une cirrhose auront eu raison du genius. En Europe, l'annonce de sa mort fait l'effet d'une bombe. France Info, de 22h à 6h du matin, la nuit de sa mort va diffuser ses chansons. Le lendemain du grand départ, le journal Le Monde le met en première page. C'est la première fois que la référence journalistique française le fait pour une personnalité autre que politique. Mais nul n'est prophète en son pays. Et aux États-Unis, la donne est quelque peu différente. Ronald Reagan a eu la mauvaise idée de mourir avec un peu d'avance. Le 11 juin 2004, ce sont ses funérailles nationales. Alors, la mort de Ray Charles, la veille, passe un petit peu en second plan. Il a beau être le genius, en face, c'est un des présidents les plus aimés de l'histoire de son pays. Alors, il faudra attendre le jour de son enterrement, le 18 juin, pour que le président Bush, en exercice, fasse une annonce officielle. Ray Charles, c'est d'abord un homme, avant d'être un artiste de talent, au cœur débordant de courage et de sincérité. Celui qui trouva la force d'arrêter l'héroïne après la réconciliation officielle avec sa terre de naissance et qui ne cessa de donner de l'argent à de grandes causes liées à sa communauté. D'abord aux Afro-Américains, certes, mais ensuite aussi pour les sourds et muets. Le total de ces donations s'élève à une somme qui dépasse les 20 millions de dollars. Une pure folie. Hors concert filmé, il apparaît dans 13 films, dont le célèbre Blues Brothers. On lui doit le total hallucinant de 79 albums studio, sans compter ceux d'avant 1957. On peut y ajouter 16 albums live, sans compter ses 4 posthumes. Tout bonnement incroyable, presque inimaginable. En 2008, une partie de ses enregistrements originaux est détruite dans un incendie de la maison de disques Universal. Flamme de malheur qui emporte avec elle la quintessence du talent. Ray Charles, c'est donc l'incarnation même de la dévotion, du courage et du talent né dans la misère et la souffrance. Le malheur apporte tristesse et chagrin profond. Il traumatise, certes, mais marque aussi d'une empreinte indélébile certaines existences. Il insuffle une force primitive et instinctive à ces blessés de la vie qui lui doivent leur talent de création. Tous les gens qui ont des trous dans la tête au sens figuré du terme peuvent et doivent s'inspirer de la destinée de cet homme qui renversa le monde pour devenir l'homme qu'il était. Et je vous propose aujourd'hui de nous quitter avec une citation extraite d'une chronique rédigée par Diana Robinson. Cette femme est la présidente de la Northeast Ohio Coalition for the Homeless, une institution de référence. Aveugle elle-même, elle écrit lors du 10e anniversaire de la mort de l'artiste, « Ray Charles a fait savoir à tout le monde qu'un handicap peut vous ralentir, mais doit également vous permettre de continuer à avancer. Battez-vous pour ce que vous croyez et voulez dans la vie. Suivez vos rêves et prenez soin de votre famille. » Ray Charles avait l'habitude d'écouter de la musique tous les jours et de continuer à regarder la chorale de l'église, de déambuler pour écouter les groupes jouer dans des endroits de son quartier. Ray Charles et moi sommes aveugles des deux yeux, mais nous partageons notre amour pour nos enfants et j'ai été inspiré par la façon dont il prenait soin des siens. Il faut du temps à quiconque pour s'adapter à son handicap, mais nous l'avons tous les deux fait, et lui, avec brio. Alors il ne nous reste plus qu'à dire une chose, une seule. Chapeau à l'artiste, et merci. It's useless to say, so I'll just live my life of dreams of yesterday. Oh, yeah. Voilà pour ce récit émouvant que j'ai eu le plaisir de partager avec vous grâce à la plume de Valjean.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.